Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle connaît l'Égypte comme sa poche. Elle est surnommée la grande prêtresse de Ramsès II.
Eh oui, hein, c'est pas Dalida.
En effet, Clémentine, elle est française, mais elle a passé une grande partie de sa vie en Égypte pour diriger des campagnes de fouilles et sauvegarder ses trésors. Stéphane Bern met de l'or dans ses papyrus et nous raconte la première grande égyptologue, Christiane Desroches-Noblecou.
Nous sommes le 13 janvier 1955 sur l'aérodrome d'Héliopolis en Égypte. Il est 3h du matin quand un avion se pose sur le tarmac. À bord se trouve le directeur général de l'UNESCO. Luther Evans est en visite officielle au Caire et comme à chacun de ses déplacements, son agenda est très chargé. C'est donc d'un pas rapide que cet Américain d'origine texane se dirige dans la nuit égyptienne vers le petit hall d'accueil de l'aéroport. Lui, qui dépasse toute sa délégation d'au moins une tête, a la surprise d'être accueilli à l'intérieur par un petit bout de femme d'à peine 1m58, un peu replète, les cheveux courts. C'était pas prévu. Cet archéologue spécialiste de l'égyptologie s'est invité à l'arrivée. Christiane Desroches-Noblecou a une idée derrière la tête. Et quand cette impétueuse française veut quelque chose, rien ne l'arrête. La tête haute, le regard déterminé, cette chercheuse de 41 ans a fomenté un plan insensé. Montrer les temples d'Abou Simbel au directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Pour qu'il voie de ses yeux l'incroyable spectacle de ces édifices construits au XIIIe siècle avant notre ère par Ramsès II lui-même. Pourquoi ? Parce que ces inestimables trésors d'art et vestiges historiques risquent d'être anéantis. Un gigantesque projet de barrage, le haut barrage d'Assouan, menace de les engloutir à jamais sous les eaux. Eux et d'autres merveilles de Nubie. Problème, il faut à l'époque 5 jours pour rejoindre Abou Simbel depuis le Caire. 5 jours de train, de piste et de bateau. Autant dire une expédition impossible pour une visite officielle de quelques jours. Mais qu'importe. Pour Christiane Desroches-Noblecou, c'est aujourd'hui ou jamais. Alors, il faut tenter l'impossible. L'archéologue a remué ciel et terre pour trouver une solution. Et elle l'a fait. Elle est parvenue à faire spécialement affréter un avion militaire égyptien. Et malgré les tensions entre les deux pays, elle a réussi à convaincre l'ambassadeur du Soudan de les laisser atterrir à Wadi Halfa, au plus près du site, pour leur permettre une excursion aller-retour dans la journée. Il ne lui reste plus qu'à convaincre le directeur de l'UNESCO. Stupéfait, mais néanmoins intrigué par cette proposition impromptue, Luther Evans se laisse embarquer dans l'aventure. Et voilà donc une partie de la délégation repartie pour presque 3 heures d'avion, puis 4 heures de piste en voiture, puis enfin la traversée du Nil en bateau jusqu'au site d'Abou Simbel, situé en bord de fleuve. À bord de l'embarcation, c'est avec stupeur que Luther Evans découvre les colosses du Grand Temple, dressés dans la roche, taillés dans une pierre couleur de sable, les eaux du fleuve sacré restituant à l'envers leur reflet monumental. Spectacle à peine croyable. Christiane Desroches-Noblecou a réussi son pari. Elle, qui voue une admiration sans borne à ses trésors de l'Égypte ancienne, parvient à émouvoir le directeur de l'UNESCO. À son retour au Caire, il admet lors d'un discours, je le cite, qu'il serait nécessaire de prendre soin des temples de Nubie. Avec le soutien déjà acquis du président égyptien Abdel Nasser, puis désormais de l'UNESCO, l'égyptologue française s'est engagée dans ce qui sera la plus grande bataille de sa vie, la sauvegarde des trésors de Nubie. Christiane Desroches-Noblecou en sortira victorieuse en initiant la plus incroyable campagne archéologique jamais engagée. Une campagne qui durera 20 ans. Le démontage pierre par pierre de 30 temples nubiens menacés d'être engloutis par le barrage, puis leur reconstruction à l'abri de la montée des eaux. Un chantier pharaonique, c'est le cas de le dire. Mais qui est cette Française qui a réussi à déplacer des montagnes au sens propre comme au sens figuré, au nom de la sauvegarde du patrimoine universel. Incroyable destin que celui de cette égyptologue française, parvenue au sommet de sa discipline sans jamais avoir décroché le bac. Et malgré un autre handicap de taille pour l'époque, celui d'être une femme. Comme souvent avec les belles histoires, tout commence par l'émerveillement d'un enfant. Né en 1913 dans une famille raffinée et cultivée, Christiane Desroches découvre très jeune les représentations égyptiennes. Comme nombre d'enfants, elle éprouve tout de suite une grande fascination pour cette civilisation à la fois effrayante et énigmatique. Mais au lieu de faiblir avec l'âge, comme souvent chez elle, cette fascination ne fait que grandir. Christiane lit tout ce qu'elle peut sur l'Égypte antique. Au début des années 20, elle est totalement subjuguée par les comptes rendus de la découverte des trésors du tombeau de Toutankhamon. Bien qu'elle ne décroche pas le bac, elle parvient à poursuivre des études secondaires. Tout ce que Paris compte de cours d'archéologie égyptienne, Christiane Desroches s'y inscrit. À la Sorbonne, à l'École du Louvre, au Collège de France, à l'Institut catholique. Brillante, elle obtient sans mal sa licence d'études égyptiennes de l'École pratique des hautes études, puis décroche à seulement 23 ans un poste au département d'égyptologie du Louvre, devenant ainsi la toute première femme à obtenir un poste analogue au sein de ce département, il faut le dire, très masculin. Une prouesse qui sera très loin d'être la seule de sa carrière d'archéologue. L'année suivante, lors de son tout premier voyage en Égypte, Christiane Desroches devient la première femme nommée au poste de pensionnaire de l'Institut français d'archéologie du Caire. Puis, dans la foulée, la première à diriger une fouille. Nous sommes en 1938 et bientôt, une autre occasion se présente de prouver que son amour pour l'art ne connaît aucun obstacle, pas même celui de la guerre. En 1939, la guerre éclate en Europe. Tourmentée par les nouvelles, Christiane Desroches rentre en France en mai 1940. Immédiatement, elle propose ses services au Louvre. Jacques Jaujard, le directeur général des musées nationaux, a commencé un extraordinaire plan d'évacuation de tous les chefs-d'œuvre que compte la capitale. Elle va l'aider dans cette périlleuse entreprise. Après l'appel du 18 juin, Christiane est de ceux qui n'acceptent pas l'armistice signé par le gouvernement de Vichy. À 27 ans, elle entre en résistance, multipliant les missions pour l'armée des ombres. En décembre 1940, à Moulins, elle est même arrêtée par la Gestapo, qui heureusement ne trouvera pas le minuscule document secret qu'elle cache dans son gant. Quand la guerre prend fin, sa passion pour l'Égypte reprend ses droits. Christiane Desroches, devenue Christiane Desroches-Noblecourt, depuis qu'elle s'est mariée en plein cœur du conflit avec le conseiller technique à la sécurité des musées de France, reprend le cours fulgurant de sa carrière. Elle entreprend alors des centaines d'allers-retours entre Paris, son poste de professeur au Louvre, et l'Égypte. Là-bas, elle s'occupera au total de près de 700 chantiers de fouilles. Outre son extraordinaire combat pour la sauvegarde des trésors de Nubie du haut barrage d'Assouan, Christiane Desroches-Noblecourt a marqué les mémoires à travers deux expositions restées dans les annales. L'exposition Toutankhamon, qu'elle organise en 1967 à Paris, et l'exposition Ramsès II, à laquelle elle participe activement en 1976. Au Louvre, où elle enseigne, elle devient une légende vivante. Au début des années 1980, désormais conservatrice en chef du département des antiquités égyptiennes, les cours magistraux qu'elle dispense encore engendrent des embouteillages à l'entrée de l'amphithéâtre. Il faut dire que grâce à Christiane Desroches-Noblecourt, à ses ouvrages passionnants, à ses combats exaltés, l'égyptologie n'est plus en France la discipline austère qu'elle fut longtemps. Lorsqu'elle meurt en 2011, à l'âge de 97 ans, celle qui a reçu en 1975 la toute première médaille d'or du CNRS destinée à une femme, puis le titre de Grand Croix de la Légion d'honneur en 2008, est devenue l'une des figures les plus emblématiques de l'égyptologie française, quasi au même titre que Jean-François Champollion, qui lui avait déchiffré les hiéroglyphes.